Une production des studios Bars.
L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
Revue à la hausse du plafond pour les subventions fédérales. Des changements à venir chez Renault, Nissan, Mitsubishi. Gros succès pour le Salon du véhicule électrique de Montréal et nouvelle édition du sondage annuel de l'AVEC. Le ministère des Transports norvégien veut supprimer les avantages pour les véhicules électriques. Réflexion branchée de Claude Gauthier, on parle du quotient intellectuel des acheteurs de véhicules électriques. Nouvelle chronique Tessa de Laurent Gigon et en grande entrevue, on parle du système de conduite autonome FSD de la compagnie Tesla.
Parce qu'on s'entend le jour que l'auto se conduit virtuellement tout seul. Puis tu peux, je veux m'en aller à Toronto, plutôt que de prendre un vol de 3 heures, je m'en aller à Toronto, je vais embarquer dans mon auto à minuit le soir, puis je vais me réveiller en arrivant là-bas à 6 heures le matin.
Tout ça et bien plus encore dans le 125e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Moi, de mon côté, ça va super bien. Je vous rappelle que je suis dans un studio temporaire pour encore quelques épisodes, donc encore au moins 1 mois et demi, 2 mois, compte tenu de rénovations majeures chez moi. Donc, on est relocalisé temporairement, mais on parvient tout de même à produire, je pense, quelque chose de potable. Vous pouvez sûrement observer ou plutôt remarquer quelques différences au niveau sonore, mais quand même, on réussit à s'en tirer pas trop mal dans les circonstances. Encore une fois, ce mois-ci, très surpris de voir la progression, l'augmentation de téléchargement de Silence on roule. Vraiment, là, je pense que plus que jamais, Silence on roule répond à un besoin. Une augmentation de près de 50% en quelques mois seulement. Vraiment très impressionné. Je suis très surpris d'ailleurs de l'auditoire sur YouTube. Il faut bien réaliser que Silence on roule est un format radio. Donc, on publie sur YouTube sans vraiment mettre de vidéo. Là, c'est simplement le visuel de l'épisode avec l'audio par-dessus. Et malgré ça, ben YouTube est rendu le deuxième moteur sur lequel l'épisode est le plus écouté, donc après Apple Podcasts et YouTube, qui est le plus populaire. Donc, ça me surprend vraiment. Il y a quelques mois à peine, il y a un an seulement, on n'était même pas sur YouTube. Il y a quelques mois à peine, c'était quelques centaines de téléchargements seulement par mois. Et maintenant, c'est par milliers. Vraiment impressionné. On ne l'a pas vu venir. Un épisode vraiment intéressant, ce mois aussi. On parle de plusieurs choses. Évidemment, il y a la chronique Tesla avec Laurent Gigon. On a également la chronique des réflexions branchées de Claude Gauthier. Mais toujours en mode Tesla, on va parler du full self-driving, donc la conduite assistée, là, qui est une conduite pas tout à fait autonome, mais en tout cas le plus proche qui existe dans une voiture pour une voiture normale grand public, là, c'est le FSD de Tesla. Et on va parler avec 2 propriétaires qui ont cette fonctionnalité-là, qui vont nous parler de leur appréciation là, de la fonctionnalité en question. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres Teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre Teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre Teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
Les actualités sont une présentation du Salon du véhicule électrique de Québec, du 13 au 15 mai au Centre des foires de Québec. Venez voir et essayer toutes les nouveautés dans le monde de l'électromobilité. Bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens, le programme d'incitatif pour les véhicules à zéro émission, le IVZE, le programme de subvention fédérale, quoi, continuera d'exister jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à épuisement des fonds disponibles. Jusqu'au 25 avril, donc, le plafond pour le prix de détail suggéré par le fabricant, le PDSF du programme IVZE, augmentera, ce qui accroîtra le nombre de marques et de modèles de véhicules admissibles et la définition des véhicules hybrides rechargeables à plus longue autonomie est désormais basée sur l'autonomie électrique du véhicule en kilomètres. Les véhicules hybrides rechargeables avec une autonomie de plus de 50 km seront éligibles aux 5 000 de subvention, tandis que ceux sous le seuil du 50 km d'autonomie tout électrique seront toujours éligibles à une subvention de 2 500 Suite à ce changement, on peut croire que seront maintenant éligibles à l'incitatif de 5 000 le Ford Escape, le Hyundai Santa Fe, le Hyundai Tucson ainsi que le Kia Sorento. Des changements potentiels sont apparus à l'horizon entre l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en raison de la situation mondiale difficile et de l'électrification. Renault envisage éventuellement de se séparer de son activité de voiture électrique du reste de l'entreprise par le biais d'une introduction en bourse. Cette décision ressemble à celle annoncée par Ford, qui a décidé de séparer les véhicules électriques des véhicules moteurs à combustion interne. Le constructeur automobile français Renault a déclaré vendredi que toutes les options étaient sur la table pour séparer son activité de véhicules électriques, y compris une éventuelle introduction en bourse aussi rapide que le second trimestre de 2023. Dans le cas de Renault, l'entreprise sait que d'importants investissements dans l'électrification l'attendent, alors que dans la situation actuelle en Europe, son principal marché, c'est en grande difficulté que l'automobile tire son épingle du jeu. Renault et Nissan sont concentrés vers la nouvelle infrastructure, leur mise en place et la montée en puissance de leur premier modèle tout électrique basé sur la plateforme CMF-EV. Dans le cas de Renault, on vise initialement la Renault Mégane, alors que dans le cas de Nissan, c'est la Ariya. Le Salon du véhicule électrique de Montréal qui avait lieu il y a quelques semaines a eu tout un succès. Entre vendredi 13h et dimanche 17h, c'est plus de 43 000 personnes qui ont descendu les marches du Stade olympique, soit une augmentation de près de 75% sur la dernière édition. Il y a eu donc 43 000 visiteurs, mais 1751 essais routiers ont été réalisés, 4500 essais de petits véhicules électriques, des vélos, des scooters, trottinettes, etc., plus de 30 conférences et plus de 100 exposants. Donc, évidemment, les salons du véhicule électrique sont très populaires par les temps qui courent, le prochain à venir, dans quelques jours, et le Salon du véhicule électrique de Québec. À toutes les années, l'Association des véhicules électriques du Québec réalise un grand sondage annuel qui permet d'établir un portrait le plus complet possible et le plus précis sur l'électromobilité au Québec. C'est maintenant le temps de faire cette nouvelle photo de groupe des électromobilistes québécois grâce à ce sondage annuel, un des plus complets et les plus achalandés dans le monde de l'électromobilité québécoise. Cette année encore, le questionnaire est ouvert à tous les électromobilistes, dis-je, qu'ils soient membres ou non de l'association. Vous pourrez trouver le lien pour répondre aux questions du sondage dans les références du présent podcast. Il y a plus d'une semaine, un rapport publié par la NHTSA stipule que General Motors a remédié à près de la moitié des véhicules dans le cadre du rappel de batterie pour les Chevrolet Bolt EV-EUV. Donc, ce rapport qui date du 22 avril stipule que 26 925 véhicules sur un total de 57 414 ont fait l'objet d'un rappel. Cela représente environ 45 % du nombre total de véhicules potentiellement concernés par le rappel qui traite des défauts de fabrication pouvant entraîner des incendies de la batterie. Cependant, 210 véhicules sont répertoriés comme introuvables et 345 autres auraient été détruites. Selon le rapport, tous les propriétaires ont été informés du rappel entre le 13 août 2021 et le 12 octobre 2021. Le ministre norvégien des Transports envisage de supprimer ou de réduire certains privilèges accordés aux véhicules électriques, comme les taxes et les péages dans les grands centres urbains. Selon ses propres déclarations, le gouvernement veut diminuer le trafic en plus de remplacer les moteurs à combustion par des voitures électriques. Selon le ministre des Transports, les raisons de cette réflexion ne sont pas seulement causées par la baisse des revenus, mais aussi à cause du retard de l'évolution du mode de transport. Selon le ministre des Transports, c'est formidable de rouler en voiture électrique, mais ce n'est pas idéal si les gens utilisent leur voiture pour se rendre dans les centres urbains au lieu de marcher ou de faire du vélo ou d'utiliser le transport en commun. Pour le moment, la décision finale et la question est toujours en suspens, a déclaré le ministre à la chaîne de télévision NRK. Alors que le nombre total d'immatriculations en Norvège a diminué de 15 % cette année, cependant les voitures électriques ont augmenté de 28,9 % par rapport à la même période l'an dernier. En avril, 74,1 % des nouvelles immatriculations en Norvège étaient électriques, alors qu'en mars, elles représentaient 86,1 %. Branchée de Claude Gauthier.
Alors, bonjour. Cette semaine, la chronique fait état d'une étude qui a été faite par le Moran Institute of Applied Science qui est établi au North Sultan. Donc, le titre de l'étude s'intitule « Les propriétaires de véhicules électriques ont un quotient intellectuel sous la moyenne ». Donc, selon cette étude, la majorité des propriétaires de véhicules électriques se sont révélés sous la moyenne du quotient intellectuel mondial. Cela explique pourquoi ils délaissent une technologie fiable, abordable et rapide. Donc, selon son directeur, Suyon Barakarn, les scientifiques de l'Institut ont établi une prémisse selon laquelle la réflexion des propriétaires n'était pas cohérente. Plusieurs personnes se demandent pourquoi un propriétaire d'un véhicule à combustion délaisse ce type de véhicule. Soit ils ne comprennent pas les avantages, ou encore ils ont une faible compréhension de cette technologie, se demande l'analyste en chef Homer Simpson. Donc, l'étude en question a analysé le comportement de milliers de propriétaires de véhicules électriques afin de comprendre pourquoi ils préféraient abandonner un véhicule qui leur procurait confort, autonomie et rapidité de remplissage pour un véhicule plus dispendieux à 200%, qui en plus leur permet une autonomie moindre de 70%, et demandant des jours avant de pouvoir s'en servir lorsque le réservoir est vide. Donc, il ajoute que ce réservoir, en plus, est à changer à tous les 4 ans. Comme l'a clairement exprimé son directeur, « Those people are crazy like shit ». Ce qui est incompréhensible à ses yeux est le fait qu'un sondage d'une association d'une obscure province canadienne pour identifier le propriétaire type l'a décrit comme étant un homme entre 46 et 55 ans, avec un revenu de 70 à 80 000 $ puis un niveau d'éducation collégial. Donc, ils demandent « Did they get their diploma in a Cracker Jack box or eaten the You Can Girl Gummy Bears? » C'est-il exprimé. Donc, ça vient de... La source est de Defecated Press. Les auteurs de l'étude n'ont pu fournir aucune donnée pour soutenir leurs conclusions, mais en ces temps où la science est devenue un fait alternatif, les réseaux sociaux se sont emparés de cette étude pour faire comprendre à leurs beaux-frères pourquoi ils ne les suivraient pas dans cette direction. Donc, cette étude exprime clairement pourquoi les propriétaires de véhicules électriques sont quand même assez bizarres. Donc, ils délaissent un véhicule qui est à 100% parfait et s'en vont vers autre chose qui est carrément pas bon. Donc, on vient comprendre pourquoi. Bien sûr, vous comprendrez que c'était sarcastique. Il n'y a aucune étude qui prouve ça. Et ça serait assez difficile à comprendre. Mais en même temps, c'est un peu comment moi je me sens. Je ne sais pas pour vous, mais quand je parle avec certaines personnes, c'est comme si ils oubliaient que, coudon, ou à l'âge que je suis rendu, là, j'ai 54 ans, la plupart des véhicules que j'ai possédés dans ma vie étaient essence et non pas électriques. En tant que tel, j'en ai eu 2 électriques. Donc, on énonce des choses, on va me dire des choses comme si j'avais jamais eu de véhicule. C'est comme si mon premier véhicule dans ma vie avait été un véhicule électrique et je ne comprenais pas quel était un véhicule à combustion. Puis pourtant, comme je viens de dire, là, c'est la plupart des véhicules que j'ai possédés dans ma vie. Donc, je suis capable de comprendre, oui, les avantages qu'il y a à avoir un véhicule à essence, mais coudonc, il doit certainement avoir une raison pour laquelle j'ai abandonné cette technologie-là. Puis surtout, pourquoi je la maintiens. Si c'était vraiment pas si bon que ça, j'aurais pas fait la gaffe d'en acheter un deuxième. J'aurais peut-être acheté mon premier véhicule et je me serais dit, bien malheureusement, c'était pas quelque chose qui était pour moi, donc je pensais que ça allait être beaucoup mieux, mais c'est pas le cas.
Ça m'amène au reportage de facture. Probablement que vous l'avez écouté. Reportage de facture sur des propriétaires de véhicules électriques. Et bien sûr, ben, je m'en suis fait parler. J'ai vu aussi sur à la minute que le reportage est sorti, on a vu les commentaires là, qui étaient teintés d'un peu d'incompréhension sur divers groupes où on disait que bon, ben, un véhicule électrique, l'hiver perdait automatiquement 50% de son autonomie. Imaginez qu'au Lac-Saint-Jean, là, l'hiver commence de bonne heure puis elle finit tard. Donc, c'est à peine si de dire presque 8 mois par année, on aurait juste 50% de l'autonomie, ce qui n'est pas réellement le cas. Donc, comme je disais aussi, je n'aurais pas fait la gaffe d'en acheter un deuxième. Je suis directeur régional de l'AVEC depuis un bon bout de temps. Je connais beaucoup de personnes. Puis à date, il n'y a encore personne qui me dit qu'il avait réellement fait un mauvais choix. Bien sûr, des fois, les gens sont un peu déçus de certaines choses parce que, justement, c'est ça qu'il fallait retenir du reportage de la facture. Le problème n'était pas le véhicule, mais bien peut-être que les concessionnaires n'avaient pas donné la bonne information. Je prends l'exemple de la dame qui avait la e-Golf qui s'est fait dire que, premièrement, elle allait avoir une autonomie de 200 km. Je pense que les propriétaires de e-Golf peuvent faire ça, mais dans des conditions vraiment avantageuses. Puis, c'est sûr que c'était impossible que ça fasse ça l'hiver. Tout véhicule, qu'il soit à combustion ou qu'il soit électrique, va consommer plus l'hiver que l'été. Bien sûr, c'est très normal. Donc, on pouvait pas croire qu'un vendeur ait dit ça, puis aussi qu'une personne ait pu croire ça. Le deuxième aussi reportage que je veux vous parler, c'est Radio-Canada qui a fait une série de reportages là, qui était sur le web et que j'ai vu apparaître aussi sur Découverte concernant le lithium là, qui voudrait être extrait là, dans les mines dans la province de Québec. Donc, je sais pas pourquoi, mais il y a plus qu'une mine, mais on s'est concentré sur une mine qui était qui est en Abitibi, donc qui est tout près de l'escarre de... qui est possédé par Esca, puis aussi qui est l'eau potable qui sert pour les habitants de la ville d'Amos, là, en Abitibi-Témiscamingue. Je pourrais peut-être faire un lien aussi qui a pas été dit dans le reportage, mais si j'étais la compagnie qui a puisé plus de 2 milliards de litres d'eau en 2017, puis qui a versé des redevances de seulement 145 899,92 $, tant que moi aussi, je serais inquiet qu'il y ait une mine qui ouvre, qui aille polluer là, vraiment la source de mes revenus. Voyez, j'ai pas dit que je voulais que la compagnie aille polluer la source d'eau pour les habitants de la ville d'Amos. Pas du tout. Mais on a fait ce reportage-là, puis on n'a pas parlé en tant que tel. Moi, je pensais qu'on allait parler de la production de lithium un peu partout dans la province, mais on s'est concentré que sur cette mine-là. En plus, lorsqu'on a commencé le reportage, on dit que la majorité du lithium dans le monde provient des salars de l'Amérique du Sud, puis c'est une production qui n'a pas bonne presse, et qu'on va passer d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux minéraux. Je sais pas comment un journaliste peut savoir ça, là, s'il y a une boule de cristal. Puis en plus, ben, on a prouvé dans le reportage à contresens que oui, c'est vrai que la production vient surtout de l'Amérique du Sud dans les salars, mais c'est une sous-production. C'est un sous-produit d'une autre production parce qu'en tant que tel, qu'est-ce qu'on fait dans ces déserts-là? On produit de la potasse, hein, qui est utilisée en agriculture. Donc, on produit de la potasse, puis en se ressortant la potasse des déserts, ben on s'est aperçu qu'il y avait du lithium au travers. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas pour le laisser là et dire on fera rien avec. Donc, ils le vendent. C'est dans des déserts, ben en tout cas, moi, je crois que si c'est dans les déserts, il ne doit pas avoir beaucoup de conséquences, autant sur les communautés animales que humaines, du moins, je pense. Puis, surtout, moi, c'est ça que je voudrais dire. On est rendu, là, c'est très difficile de parler parce que tout devient noir ou blanc. Il n'y a plus de zone grise. C'est sûr que je veux la transition. Est-ce que je veux une transition qui va faire que, justement, on va passer d'une dépendance du pétrole à une dépendance des métaux? Est-ce que je veux que tout ça se fasse, qu'on va aller polluer l'environnement animal, les écosystèmes, l'environnement pour les humains? Bien sûr que non. Moi, ce que je veux, c'est la transition qu'elle soit durable et surtout qu'elle soit intelligente. Et parlant d'intelligence, ben voyez, je vous ai sorti une étude qui avait absolument aucun rapport. Réécoutez aussi tout ce que j'ai dit, vous allez voir qu'il y a des inside jokes à l'intérieur. On n'est pas moins intelligent parce qu'on a un véhicule électrique. On n'est non plus pas plus intelligent parce que des fois, il y a des gens qui ont émis des commentaires que ça faisait assez dur. Cette semaine, j'ai été obligé de quitter un groupe là qui était par rapport à l'entreprise Tesla. Donc, l'administrateur du groupe demandait la question « Pourquoi tant de haine envers Elon Musk suite à son achat de Twitter? » Et il a copié aussi des commentaires de chroniqueurs où on disait qu'avec les 44 milliards qu'il avait pris pour acheter Twitter, il aurait dû essayer de sauver l'humanité. Ça n'avait aucun rapport, ces commentaires-là. Moi, je me fous bien de ce que les gens font avec leur argent, tant qu'ils ne me demandent pas de contribuer, là. C'est leur argent, donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai répondu à la question « Pourquoi tant de haine? » Puis j'ai dit que malheureusement, Elon Musk avait des fois exprimé des commentaires sur Twitter qui étaient dignes d'un troll. Je trouvais que ça faisait dur. Ben, suite à mon commentaire, ben, j'ai eu des messages personnels où on me traitait d'idiot, de woke, de bien-pensant, de ci, de ça. Il y a même quelqu'un qui s'est permis de me dire que ça serait drôle que qu'il aille faire la même affaire que j'étais en train de faire en essayant de débattre Tesla. Wow, j'essaie de débattre Tesla. Qu'il irait faire des commentaires sur Google contre mon entreprise là, pour vraiment me faire une mauvaise impression. Donc, ça me tentait pas de me battre. Là. Donc, j'ai décidé de quitter le groupe, puis ça a été ça. Donc, pour vous dire que l'intelligence n'a pas rapport avec le véhicule que vous possédez, mais bien à la réflexion que vous en faites. Donc, là-dessus, bonne semaine!
Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solution. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
Aujourd'hui, on a un sujet techno, mesdames et messieurs. On va parler de la conduite autonome et on va se concentrer principalement sur le FSD, Full Self-Driving de Tesla. Sa dernière mouture, au moment où on enregistre l'émission d'aujourd'hui, on est au 10.11.2. Au moment où vous allez l'entendre, ça va être diffusé, on sera peut-être rendu au 0.3, 0.4, qui sait. Mais à tout de moins, ça sera des améliorations de ce qu'on va parler aujourd'hui, si jamais ça évolue un peu. Et pour en parler, évidemment, on a des propriétaires de Tesla qui ont cette fonctionnalité de Full Self-Driving. Alors, j'ai avec moi Marc Godin. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Et également, un que vous connaissez, vous entendez à l'occasion, Fred Saint-Laurent. Salut, Fred.
Bonjour.
Donc, messieurs, vous avez des Tesla, peut-être pour nous situer un peu. Quel modèle, Fred, toi, tu as une?
Modèle 3 Long Range 2018, là, dans les premières qui étaient sorties 4 roues motrices à l'époque.
OK. Et toi, Marc?
Moi, j'ai une 2019 Long Range également, mais propulsion.
OK. Mais ça change techniquement rien, à moins que je n'ai pas compris. Là, dans le FSD comme tel, on vous a déployé la même version logicielle, puis vos véhicules respectifs ont les mêmes fonctionnalités où il y a des différences, ouais, au niveau des, je sais pas moi, des caméras, des capteurs qui pourraient faire, non? C'est la même chose.
Il y a peut-être des petits détails au niveau des caméras. J'ai entendu dire que les plus nouvelles, les clignotants latéraux, qui servent maintenant de caméra d'angle mort, justement, quand on met le clignotant de nuit, on ne voit plus l'espèce de petit reflet du clignotant dedans.
Fait qu'il y a pas mal de petits changements. Je ne dois pas avoir ce modèle-là.
Okay, toi aussi, tu vois
j'ai
la
encore
lumière,
un peu reflet de là à ce que ça m'agace, non. Mais oui, je vois quand même le reflet du clignotant. Moi, c'est mai 2019. Si toi, tu me dis fin 2018, d'après moi, c'est très semblable comme technologie. Okay.
Bon, fait qu'on va parler de cas très semblables. C'est parfait. Avant d'entrer donc dans votre expérience avec cette nouvelle version là, de la conduite autonome de Tesla, peut-être juste situer un peu les auditeurs par rapport à ce que c'est. Donc, l'expression en tant que telle le situe assez bien. Une conduite autonome, on s'imagine, c'est le véhicule qui conduit tout seul ou passablement tout seul. Il y a certains trucs qu'on fait normalement avec un véhicule traditionnel. Donc, tourner, freiner, accélérer, que le véhicule va être capable de prendre en charge tout seul. Et il y a différents niveaux d'autonomie que le véhicule peut prendre au fil de l'amélioration technologique. Et il y a un standard qui a été établi là, par SAE, le SAE J36, qui sont les niveaux d'automation ou d'automatisation de la conduite. Le niveau 0, c'est le niveau qu'on a toujours conduit, là. Donc c'est la personne derrière le volant qui s'occupe de tout de A à Z, donc le véhicule ne prend rien en charge, donc si on cesse de freiner par soi-même ou d'accélérer ou de tourner par soi-même, le véhicule ne le fera pas pour nous, donc on s'occupe de tout, donc c'est niveau zéro, c'est comme il n'y a pas d'autonomie d'automatisation du véhicule comme tel. Il y a le niveau 1 qui, là, commence à ressembler, je vous dirais, à les premières versions de Cruise Control, donc de régulateur de vitesse adaptatif. On est capable de jouer sur la vitesse, puis on est capable de se maintenir sur certaines versions centrées par rapport à une ligne, là, les lignes sur la chaussée. Donc, le véhicule va tendre à vouloir se tasser un petit peu à droite si on est un peu trop à gauche ou un petit peu plus à gauche si on est un peu trop à droite, puis va également ralentir si le véhicule en avant de nous ralentit, etc. Il y a le niveau 2 où là, on va être capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en même temps qu'on est en train de se centrer sur une ligne, accélérer ou décélérer en fonction de ce qui se passe. Donc, le véhicule prend en charge plusieurs fonctionnalités simultanément, mais vraiment, là, on est plus au niveau de base. Au niveau 3, là, on commence vraiment à parler d'une certaine conduite autonome. Donc, évidemment, tout ce que j'ai mentionné précédemment est encore là. Mais là, il y a certaines fonctionnalités du véhicule qui vont être prises en charge par le véhicule lui-même sans l'intervention du conducteur. Ça peut être, par exemple, d'appliquer les freins d'un coup sec. Ça peut être de changer de voie si le trafic ralentit dans la voie dans laquelle on est et on veut aller dans une voie, par exemple, la voie de gauche où ça roule un peu plus vite. Mais c'est un niveau qui demande à l'occasion, peut demander au conducteur d'intervenir. C'est-à-dire que le véhicule va prendre en charge, mais on ne remet pas l'entièreté du déplacement au véhicule. On est là en supervision et par moment, on doit prendre la relève sur le véhicule lui-même. Au niveau 4, là, on est vraiment dans un modèle où, par exemple, on pourrait imaginer un taxi dans une ville qui pourrait faire des déplacements essentiellement sans l'intervention du conducteur, c'est-à-dire qu'il arrête aux bons endroits, il arrête au feu rouge, il met son clignotant tout seul, il tourne les coins de rue. Le conducteur est là, mais il va intervenir si et seulement s'il y a une situation anormale qui arrive. Et normalement, dans la majorité des cas, c'est le véhicule qui va tout faire de A à Z. Et finalement, le niveau 5, ben là, on est vraiment dans un cas où techniquement, il pourrait même ne plus y avoir de volant, de pédale d'accélérateur ou de frein, le véhicule va se rendre à l'endroit qu'on lui a préprogrammé pour se rendre. Il pourrait même ne pas y avoir à la limite de conducteur dans le véhicule, puis il fait tout seul. La conduite dont on parle aujourd'hui, t'es pas juste un ou juste l'autre. Là, des fois, t'as des petits bouts d'un, mais t'as pas tout de ce niveau-là. On est quelque part entre le 3 et le 4 au moment où on se parle. C'est-à-dire que le véhicule a définitivement, dans cette version-là de l'autopilote, pas de l'autopilote, mais du FSD, le Full Self Driving, des fonctionnalités du niveau 4. Le véhicule donc est capable de changer de voie, d'accélérer, de reconnaître des panneaux de signalisation, de s'immobiliser par lui-même, d'accélérer, de répondre au feu rouge, etc. Et de réagir à certaines situations aussi imprévues. Quelqu'un qui se garoche devant le véhicule, une porte de véhicule qui ouvrirait à la dernière seconde, des trucs comme ça. Mais là, je vous parle de la théorie. Là, on va aller parler de la pratique maintenant avec nos invités, parce que c'est eux qu'on veut entendre. Donc, première question, et je la pose à Marc, la version que tu as maintenant depuis aujourd'hui, donc la 10.11.2, Tesla la présente comme étant une version bêta. En quel sens c'est une version bêta?
Version bêta, ça dit clairement quand on accepte tout ce qui est écrit à l'écran, quand on active le mode, c'est de toujours rester attentif. Et quand on le vit et on conduit avec le FSD, je pense que ça prend encore plus sa valeur de reste attentif, les yeux sur la route, les mains sur le volant, les pieds pas loin des pédales. T'as vraiment, mais vraiment pas le choix, je dirais. J'aime ça parce que je suis un maniaque de technologie puis de gadgets, donc de voir la voiture essayer des choses ou de réussir à le faire, c'est quand même impressionnant. Mais le bêta démontre très bien que on va l'essayer sur les routes du Québec avec presque pas de ligne sur plusieurs routes et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un peu la définition du bêta, je dirais. Je pense que le Québec rentre bien dans un bêta. On va voir qu'est-ce que ça donne quand il n'y a aucune ligne.
Si ça marche là, ça va marcher partout, c'est ça.
C'est en plein ça, tu sais. Puis en ce moment, le point 2, je peux pas te dire que ça fonctionne ou que ce serait... On va pas le mettre à 4, il se rapproche plus du 3 dans ce cas-ci.
Okay.
Mais il y a des routes que... OK, wow! Je touche à mon volant parce qu'il me le demande de mettre un peu, de mettre un peu de pression sur le volant, mais il fait tout. Il met le flasher, il dépasse, il se retasse à droite et il est totalement conscient de tout qu'est-ce qu'il y a à faire pour respecter les règles de sécurité en conduisant.
Frédéric, toi aussi, tu as joué avec, là, puis je dis jouer, là, c'est pas péjoratif, vous comprendrez, mais en même temps... Je pense que mon expression n'est pas trop loin de la vérité. Quand on a ça, on s'amuse en tabarouette avec. Donc, je suis persuadé, Fred, sans trop me tromper, que tu es allé faire des promenades juste pour l'essayer. Tu n'avais pas besoin de te déplacer, mais tu allais jouer avec ton FSD. Explique-nous un peu ce que ça fait, là. Donc, tu pars de chez toi, puis quoi, tu programmes dans le tableau de bord une destination, puis tu le regardes essayer de se rendre là où tu lui as programmé d'aller. Qu'est-ce que ça fait concrètement, là?
Ben, je dirais qu'en fait, d'un côté, c'est pareil comme avant. Parce que généralement, en tant que conducteur d'une Tesla, tu apprends à peu près tout le temps à utiliser ton système de navigation. Ce que le monde appelle GPS, que je me refuse d'appeler GPS, parce que GPS, c'est le sensor, et non pas tout le système de carte. Mais bon, peu importe. Donc, le système de navigation que tu rentres ta destination, généralement, on prend tout le temps l'habitude de faire ça parce que, il tient en compte le trafic, surtout quand je reste à Laval, donc dans une zone urbaine, il peut tout le temps avoir du trafic n'importe quand. Donc, il me permet d'éviter le trafic beaucoup plus facilement et tout. Donc, c'est pareil. Tu continues à te donner ta destination. C'est juste que dès que tu actives l'autopilote, d'habitude, on pouvait l'activer en ville, mais il est extrêmement limité. Il suivait les lignes parfaites, il prenait des belles lignes, il faisait les stops, mais rendu au stop, il fallait dire « vas-y, continue ». Il ne continuait pas, il ne tournait pas les coins, il y a plein d'affaires qu'il ne faisait pas. Ou je dirais, il faisait presque rien finalement. Maintenant, en théorie, il fait à peu près tout. Donc, c'est pareil. Donc, destination... deux fois le petit coup sur le levier pour démarrer l'autopilote, puis il essaie de conduire le mieux qu'il peut. Mais le bout, tu le regardes, je vais être 100% dans les lignes de ce que Marc disait, c'est oui, tu le regardes. Je dirais la meilleure façon de résumer le full self-driving, si on me le demanderait un mot, c'est surprenant. Mais surprenant dans tous les sens du terme. Donc, autant ça peut être une surprise, « Wow, il fait ça super bien », autant « Ah, qu'est-ce que tu fais là? » Donc, ça peut être autant un que l'autre. Donc, c'est vraiment surprenant dans tous les sens. Des fois, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'être attentif, mais au niveau de l'opération, ça ressemble beaucoup avec ce qu'il y avait avant.
OK. Marc, j'ai compris que cette version bêta-là, c'est pas parce que tu as une Tesla et que tu as acheté le FSD que tu l'as nécessairement. Il y avait des conditions pour l'avoir. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi?
Oui, en réalité, ils ont été avec le mode de code de sécurité. Donc, dépendant de ta conduite, puis de ce que j'ai compris, j'ai pas la théorie, puis j'ai pas lu incroyablement dessus. J'ai juste embarqué dans ma voiture, puis je l'ai essayé, puis je l'ai conduit, puis je me suis rendu compte de quelle manière je conduisais. Ma femme était persuadée que je n'allais pas avoir une cote de 100, mais bon, j'ai dit, bon, on va laisser faire ton négatif, puis je vais l'essayer. Selon la conduite que tu fais, si tu suis le monde de proche, si tu accélères rapidement, si tu freines brusquement, si tu donnes des coups de volant, ça te donnait une cote à la fin de chacun de tes trajets. Et cette cote-là cumulée te donnait comme un score. Et ce score-là s'évaluait sur 100. Puis c'est ce qui te permettait d'avoir le FSD en priorité, si on veut, ou en premier, versus les autres.
OK. Si je traduis ça, Marc, là, Tesla s'est dit, on va identifier les meilleurs conducteurs. Donc, il observe un paquet de paramètres et c'est au meilleur selon leur façon de calculer. Là, on pourrait débattre si tu es vraiment un meilleur conducteur quand tu as une cote de 100. Mais ils établissent une cote puis c'est seulement les meilleurs à obtenir la cote qui peuvent avoir le FSD. Donc, quelqu'un, par exemple, si au cours d'un trajet, c'est arrivé deux fois qu'il s'est fait couper, il a dû mettre les briques d'un coup sec ou des trucs comme ça, sa cote descend et cette personne-là qui aurait une cote de 90 plutôt que 100, ben elle n'a pas cette version bêta-là aujourd'hui. Ça a été limité aux bonnes cotes. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Fred?
Mais ça, si je peux me permettre d'ajouter, c'est l'intention vue au niveau. Mon interprétation de l'intention, c'est que c'est tellement difficile de réussir à avoir ces bons scores-là. Ça prend vraiment une attention de tous les moments. Il faut vraiment vouloir, finalement. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont plus voulu aller chercher, le monde qu'ils voulaient vraiment, puis qu'ils étaient prêts à mettre l'effort, de faire un effort pendant un bout de temps. Surtout que ce bout de temps-là, au début, ils nous avaient dit que ça serait une semaine. Ça a été quasiment un mois. Donc, ça a été un mois qu'il a fallu qu'on conduise, entre guillemets, les fesses serrées ou qu'on se trouve différents trucs. Ben, je dirais qu'il y avait une affaire très spéciale là-dedans qui aide beaucoup de monde. Puis moi, c'est de même que je l'ai fait le bout que j'ai conduit la majorité du temps. C'est que tant que tu es sur l'autopilote, peu importe ce qui arrive, si l'auto freine en panique sur l'autopilote, si l'auto fait un mouvement sec en autopilote ou peu importe, c'est l'autopilote qui conduit, l'autopilote de base, je parle, pas le full self-driving, mais dès que c'est sur l'autopilote, ça compte pas. Fait que ton millage comptait, ça rentrait en compte dans les calculs pour prouver que tu utilisais le véhicule.
Mais ça baissait pas ta cote.
Exactement, ça te faisait pas descendre.
OK.
Je suis d'accord avec ça, excuse-moi Martin, je suis d'accord avec ça, mais j'avais l'impression justement que si sur un voyage de 200 km, tu mets ton FSD 198, mais le 2 km que tu n'as pas mis ton FSD, ou dans ton pilote automatique, ces 2 km-là, échappe-les pas ou freine pas parce que là, ta cote va prendre un solide coup. Ouais. Fait que, des fois, j'étais un peu, tant qu'à faire, mettons, je vais faire un voyage, j'ai fait presque 1500 km pour avoir mon 100%. Je suis descendu une fois à 99 puis je suis remonté à 100. Mais je dirais qu'un voyage de 200 km attentif te donne une note puis remonte, corrige, si on veut, les défauts de tes autres voyages relativement rapidement en tant que tel. Mais comme mentionné, si tu as vraiment le vouloir puis tu fais attention, tu n'as aucune raison de suivre quelqu'un, la personne, la voiture en avant, à 3 pieds de distance. En tant que tel, nos cours de conduite ne nous ont jamais appris à coller le monde autant que ça. Ben, c'est un peu ça que ça fait réaliser la cote de sécurité.
Très intéressant quand même. Tu sais, puis on l'a souvent dit que Tesla était capable, là, avec les caméras même dans le véhicule, de voir la tension que le conducteur a sur sa conduite. Puis il utilise aussi ces stratégies-là pour les assurances aux États-Unis ou dans les pays dans lesquels Tesla vend de l'assurance automobile. Donc, il se fie à comment eux détectent ta qualité de conduite, mais basée sur autre chose que des accidents, basée sur comment tu accélères, comment tu dépasses, comment tu colles, comment tu es focus sur ce que tu fais. Donc, ça devient intéressant parce qu'ils peuvent à ce moment-là baisser ta prime parce que sans même que tu aies eu un accident, ils ont des confirmations par d'autres paramètres que ta conduite est, entre guillemets, plus sécuritaire ou en tout cas mérite que tu aies une bonne cote et donc des assurances qui coûtent moins cher. Vous avez mentionné tantôt quelque chose d'intéressant, donc tenez le volant. Quand on pense à conduite autonome, full self-driving, dans notre tête, c'est bien l'auto conduit tout seul. Donc, on pense intuitivement qu'on a les deux mains sur les genoux puis le char conduit tout seul. Je comprends qu'il peut le faire, c'est-à-dire qu'on les laisse proches ou sur le volant par sécurité, mais que si on les mettait sur nos genoux, le véhicule conduirait tout seul très bien quand même. Mais il y a des limites, c'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un certain temps, il t'oblige à tenir le volant. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que tu te dois de garder les mains sur le volant, Marc?
Selon moi, ça va par distance, parce que sur l'autoroute, ça me le demande un peu plus souvent que dans les petites rues. C'est là un peu, puis Frédéric, dis-moi là, si toi, tu as d'autres expériences ou quoi que ce soit d'autre, là, mais je te dirais que justement, il y a une manœuvre qui approche. Il va demander de confirmer qu'il y a encore quelqu'un en arrière du volant. Il y a encore quelqu'un qui est conscient que je suis en train de mettre le flash rouge, je vais tourner à droite ou etc. Donc, on dirait que c'est un peu là que le système veut une attention ou veut
une confirmation d'un humain derrière. Ouais.
Exact.
En gros, il détecte une résistance parce que c'est lui qui actionne le volant pour le faire tourner. Donc, dès qu'il détecte une résistance un peu, ben, il sait qu'OK, il y a des mains sur le volant. Mais j'ai aussi, depuis certaines versions, même avec l'autopilote normal, il peut servir de la caméra à l'intérieur dans l'auto. Puis s'il regarde que tu regardes trop ailleurs, s'il détecte que tes yeux sont pas relativement focus en avant ou que même si tu as des lunettes fumées puis ta tête regarde dans le champ, ben là, il va te dire, hey, tu sais, au début, il fait juste des petits flashs sur l'écran disant, hey, t'es-tu là? Puis une manée, whoop, les flashs vont devenir plus gros, puis une manée, il va se mettre à faire des beeps. Mais en gros, ça, c'est rien de nouveau, justement. C'est la même chose que pour l'autopilote avant. Je dirais, ce qui est peut-être nouveau, c'est justement avant, quand on était sur l'autoroute, il faisait un changement de voie, il nous demandait de confirmer la résistance sur le volant. Maintenant, avec le bêta, le full self-driving bêta, honnêtement, je n'ai pas détecté aucun moment qu'il demandait de confirmer que tu étais là. Il assume que tu es là. Mais de toute façon, comme l'a dit Marc, autant des bouts, il est bon, mais autant d'autres bouts, il fait des niaiseries, ce qui fait que tu vas être le moindrement, en tout cas, du moins sur nos routes, ici au Québec en ce moment. J'ai vu des fois du monde qui pouvait l'utiliser très longtemps aux États-Unis sur des vidéos qui ont eu zéro problème. Mais en pratique, ici, je dirais qu'il est quand même bon. C'est quand même intéressant de voir où ils sont rendus avec leur système, mais c'est loin d'être parfait. Ce qui fait que ça faut tout le temps tenir les mains sur le volant ou peut-être prendre deux secondes, mettre et enlever tes lunettes, là, mais pas bien plus que ça.
Tu m'ouvres une belle porte, Fred. Justement, on va en parler. Qu'est-ce qui vous impressionne, là, les côtés wow de ce que vous avez essayé? Là, commençons par toi, Fred. Nomme-moi donc quelque chose qui t'a impressionné de ce FSD-là depuis que tu l'as. Là.
Il y en a eu plusieurs. Ça a été les premiers tournants qu'il a négociés. Justement, jusqu'à date, l'autopilote, c'est tout le temps en ligne droite, that's it, où il suit la courbe. Mais là, tu arrives à un stop. Justement, c'est aujourd'hui. J'arrive à un stop, puis il y a du monde un peu dans toutes les directions du stop. Il y en a un, tu sais, genre, j'arrive en dernier, il y en a un qui passe, l'autre qui passe, puis comme il commence à partir, mon auto, à moitié moi, a commencé à automatiquement avancer comme l'aurait fait un humain pour prendre ma place à l'intersection dans le stop. Puis il l'a super bien fait, il a négocié son tournant. Mais parallèlement aussi, des fois, on dirait qu'il arrive au stop, puis ah ouais, vas-y, c'est dégagé, il n'y a pas un chat, pourquoi tu... Fait que c'est autant des fois, il arrive à un stop, il va négocier le stop parfait, wow, chapeau, tu donnes une main d'applaudissement, il arrive au stop d'après, puis on dirait qu'il dit, non, tu m'applaudis pour rien. fait que c'est vraiment, il n'est pas égal. Ouais. Ça, je dirais, les stops bien négociés de même, des fois aussi des changements de voix, quand il détecte, oups, la personne en avant va trop lent, je me tasse, il fait son changement de voix, ou même reprendre un trou en deux, le trou est relativement serré, genre de manœuvre que dès que tu sors de Montréal, tu te fais quasiment klaxonner à faire ça, mais lui, il fait les deux doigts dans le nez, pas de problème, puis évidemment, moi, quand il fait ça, je vérifie tout le temps, m'assurer que tout est beau, mais il fait bien, il fait de aussi gracieux qu'une manœuvre de même peut être faite, il le fait, ça va bien. Ouais.
Toi, Marc, y a-tu des trucs qui t'ont particulièrement impressionné?
Moi, la première fois que j'ai que ma femme était assise avec moi, puis j'ai dit je vais te montrer c'est quoi. Fait qu'on sort du garage, je suis dans ma cour, je mets la destination, je fais le double tap, il met son flasher à gauche, il tourne, il arrive au stop. C'est excuse pour le terme anglais, c'est un three-way. Donc, il y a une voiture qui arrive à gauche. Je suis clairement arrivé avant. Fait que là, mon attente est ah ouais, vas-y, tourne à droite. Mais il va pas. Là, j'ai comme, c'est sûr, il va me faire dire, bon, ce gadget-là, ça va pas bien. Et là, en regardant à ma droite sur le trottoir, il y a une madame qui attend pour traverser. J'avais pas vu, tu sais, j'ai pas regardé, j'ai pas porté attention. J'ai regardé à madame, j'ai fait signe de la tête, elle a traversé, l'autre voiture est passée, et une fois que la madame était traversée la rue, la Tesla a mis le clignotant et a tourné à droite. Ça, j'ai comme fait, OK, wow.
Elle l'avait vu
et elle attendait, lui donnait la priorité de traverser. T'sais, on a-tu habitué ça au Québec? Peut-être pas, mais on donne la priorité aux piétons de traverser.
Avant justement, c'est une des choses qui change beaucoup d'une région à l'autre du Québec. Justement, je dirais dans le coin de Montréal, toute la région métropolitaine de Montréal, malheureusement, on ne donne peut-être pas aussi priorité aux piétons qu'on devrait leur donner. Mais justement, elle, la Tesla, c'est dès qu'il y a moindrement l'air à vouloir s'engager, c'est lui qui a priorité. J'ai même eu, moi, justement, un cas que quelqu'un qui arrivait, qui a commencé à traverser au milieu de vraiment, c'était pas un stop, c'était rien. Là, quelqu'un qui a traversé ou ce qui n'avait pas le droit de traverser, elle a ralenti comme check, je te laisse passer, il a passé, puis après ça, elle a réaccéléré. Ouais. Tout graduellement, tout beau.
Là, vraiment tout impressionnant tout quand même. Hein. Et, okay, ouais. Et c'est pas juste parfait, vous l'avez dit tantôt. Si on avait identifié des faiblesses à corriger actuellement, Fred, qu'est-ce que tu ciblerais, toi?
J'en reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, sur la non-régularité. Des fois, elle peut faire une manœuvre parfaitement, puis là, oups, il y a un autre critère ailleurs qui change, que nous autres, comme humains, c'est la même affaire que tantôt, pourquoi? Mais non, elle, en tant que machine, il y a quelque chose de différent. Puis là, ça va être plus qu'au niveau du logiciel, ce que je vais dire, mais c'est le... OK, si on regarde le positionnement des caméras sur l'auto, il y en a trois dans le pare-brise en avant, il y en a deux dans les clignotants latéraux qui sont un petit peu en arrière des roues en avant, donc qui donnent une très bonne vision à l'arrière, puis il y en a deux dans le pilier B. Pour les ceux qui sont peut-être un peu moins habitués à la nomenclature automobile, le pilier B, c'est entre la porte avant et la porte arrière. Mais la caméra dans le pilier B, finalement, est généralement en arrière d'où ce qui est notre tête. Donc, des fois, il y a des choses que nous autres, avec nos yeux assis à notre place de conducteur, on voit très bien que c'est dégagé, mais la caméra de l'autopilote est un petit peu en arrière. Ce qui fait qu'elle voit un peu moins bien que nous autres. Donc, des fois, quand tu arrives à un stop, une lumière, puis elle veut bien voir pour confirmer, il faut qu'elle se pointe un peu plus le museau, faut qu'elle avance un peu plus que nous autres. Mais ça, on s'entend, ils ne corrigeront pas. Il faudrait qu'ils refassent le design de l'auto. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une façon au niveau logiciel de régler ce défi-là.
OK. C'est quoi le futur? Là, c'est trippant parce que c'est la nouvelle version, puis elle fait vraiment plus, mais vers quoi ça s'en va? Vous attendez à quoi pour la prochaine grande marche qu'on va monter, Marc? Qu'est-ce que ça devrait faire de plus?
Moi, un peu en parallèle avec ton autre question, c'est que j'ai la rue Iberville, pas loin de chez nous, là. C'est un deux voies qui n'a aucune ligne. Donc, si vous voyez une Tesla se promener en plein milieu de deux voies, là, c'est la mienne. C'est vraiment... fait que, tu sais, pour moi, s'il y a une voiture en avant, le logiciel devrait être intelligent et s'enligner quand même avec cette voiture-là. Pourquoi aller se mettre dans le centre des deux voies alors qu'il y a une voiture à gauche et une voiture à droite? Fait que, moi, pour moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir une intelligence logicielle qui va suivre cette logique-là en, mettons, tu mets un if ou un si en présence d'aucune ligne. Donc, moi, je pense que c'est un peu vers là qui devrait se pencher. Est-ce que c'est la solution ultime? Puis la Tesla Vision est capable de faire ça? Je le sais pas. Là, je suis loin d'être programmeur. Mais dans des cas comme ça, où est-ce que le printemps ou même l'hiver, j'ai pas de ligne, j'ai rien, on l'a dit, il y a des choses très impressionnantes. Puis il y en a d'autres que... Et c'est évident, la largeur que ça a ici, c'est sûr que c'est deux voies. Et lui, zéro open bar.
Il ne tire pas de conclusion sans preuve. Hein?
C'est exact.
Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va être accessible à tous ceux qui ont le FSD? C'est-à-dire, est-ce que ça va être déployé par cote, là, c'est à les 100, puis ils vont descendre aux 90, 80 en descendant, ou à un moment donné, ça va être ouvert à tous ceux qui ont acheté le FSD? Fred?
Donc, pour le déploiement, la stratégie, si on veut, que Tesla ont utilisé pour déployer aux gens, ça fait déjà, comme j'ai dit tantôt, à peu près un an que c'est disponible aux États-Unis. Aux États-Unis, au début, ils l'ont donné au monde qui avait 100% au niveau de leur code de sécurité. Après ça, ils ont descendu à 99. Après ça, à 98. Mais depuis qu'ils ont descendu à 98, entre-temps, il y en a plusieurs qui ont réussi à avoir plus que 98, qui ont eu 100% ou peu importe, mais ils ne l'ont toujours pas reçu non plus. Fait qu'on dirait vraiment qu'il y a des phases de déploiement où ils essayent d'aller se chercher plus de véhicules pour avoir plus de données. Dans leur processus pour aider l'apprentissage. Puis une fois qu'ils ont la quantité de monde qu'ils ont besoin, ils augmentent pas vraiment beaucoup. Elon Musk sur Twitter a dit que si tout va bien avec la version qu'on a présentement, ils vont peut-être ouvrir jusqu'à 95. Bon, historiquement, Elon Musk a déjà dit beaucoup de choses sur Twitter. qu'est-ce qui va arriver?
Mais là, il est sur le board de Twitter, fait que ça pourrait changer.
Ouais, ça, c'est une autre discussion. Je me demande ce que ça va faire comme différence.
On ne le sait pas. OK, donc ça veut donc dire que quelqu'un, mettons, moi, demain matin, je m'en vais m'acheter une Tesla, on me la livre, puis j'achète le FSD. Il n'est pas dit que je vais l'avoir tout de suite. Puis même si au bout de deux, trois semaines, j'ai une cote de 100, il n'est pas dit que je vais l'avoir tout de suite. on ne sait pas encore. Mais est-ce que tous ceux qui ont une cote de 100 l'ont eu? Est-ce que vous savez si tous ceux qui avaient une cote de 100 déjà l'ont eu?
Moi, je dirais que au début, quand tu étais déjà inscrit, actif, quand le programme, je pense que ça démarrait fin février, là, je crois que plusieurs d'entre eux qui ont commencé au départ vraiment l'ont eu, qui était à 100, mais quiconque s'est rajouté après ou « Ah, ben je ne savais pas qu'il fallait que j'active le FSD puis que je fasse une cote de sécurité ou des choses comme ça », ça, à ma connaissance de ce que j'ai vu sur les forums aussi, ça n'avait pas l'air d'être le cas.
Okay.
Donc, de dire que tous ceux qui sont à 100 l'ont eu, je dirais non. J'ai fait une vidéo rapide de ma conduite automatique sur 1 kilomètre à peu près, puis j'ai un chum, il me dit « Ok, Marc, j'ai commandé ma voiture. » je pars à rire, j'ai dit « Ok, tu l'auras peut-être pas demain matin, ouais, ce mode-là, c'est... mais bravo. »
Ni
bravo
la voiture, ni le mode.
Petit acheteur compulsif, c'est possible?
effectivement, mais je pense que c'était peut-être juste le vidéo, juste le petit coup de pied qui manquait.
Il faut avouer que c'est sexy pareil, là, comme fonctionnalité. Il y a plein de fonctionnalités qu'on peut retrouver ou qu'on peut avoir vu dans plein d'autres voitures. Ça, ce niveau d'intégration-là de la conduite autonome dans un véhicule grand public, il n'y a rien qui approche ça. Il faut être honnête, là, Tesla est des années-lumière en avant des autres, quoique il y a beaucoup de recherches puis il se fait beaucoup de trucs intéressants au niveau expérimental, commercial, tout ça, mais dans la voiture grand public, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autres options. Là. Si tu veux avoir ce niveau d'autonomie-là, il faut vraiment que tu ailles chez Tesla.
Je pense qu'il y a Ford qui fait de la conduite si on veut automatique, sans avoir les mains sur le volant que j'ai vu, mais quand tu lis un peu plus sur le sujet, puis je fais pas du Ford bashing, là, mais c'est vraiment juste le fait de pas avoir les mains sur le volant puis de se fier aux yeux du conducteur. Mais je trouve que ça a un contrepartie un peu dangereux côté réflexe s'il y a quoi que ce soit avec cette conduite-là automatique. Mais là, quand tu regardes toute l'analyse puis tout ce que l'ordinateur voit sur l'écran avec le Tesla, c'est comme, OK, on est dans un autre monde.
Ouais, ouais, tout à fait.
J'ai bien aimé ton explication du... Mettons, entre un 3.5 puis un 4, là, puis là, le mot, ce que j'essaie d'expliquer au monde souvent, c'est le mot bêta. Attendez-vous pas à une perfection là. On est en train de le tester.
Ouais, ouais,
on est
fait.
En train de l'essayer.
Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire.
Puis même pour un bêta, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est certaines personnes ont été habituées, par exemple, il y a de cela quelques années, Gmail bêta. Ben, Gmail a été en bêta pendant quelques années. Mais soyons honnêtes, Gmail, c'était quoi? Ben, c'est Hotmail. Donc, c'est le système de messagerie online sur le web. Donc, c'est quelque chose que bien des gens avaient fait. Bien des gens avaient fait quelque chose de similaire. Là, on parle justement d'un système d'intelligence artificielle alimenté de 8 caméras qui fonctionnent tout en temps réel, dans la vraie vie, dans le vrai monde, sans qu'il y ait de cartes.
Avec des enjeux de sécurité extrêmes. T'es loin, t'as pas de place à l'erreur, là.
Puis ça n'a jamais été fait avant.
Ouais.
Fait que c'est certain que s'il l'aurait appelé Alpha, ça n'aurait pas volé. Mais personnellement, c'est plus, justement, c'est du logiciel en développement. Il faut être conscient, justement, qu'il va être loin d'être parfait. Quelqu'un qui s'attend à quelque chose de parfait, il va être déçu, il va vouloir se faire rembourser. Mais si tu l'achètes dans l'état d'esprit que, justement, non, il n'est pas parfait, mais je veux faire partie des premiers qui l'essaient, je veux vivre avec, je veux connaître l'évolution de cette technologie-là, qui dans X années, puis là, je ne m'en pense pas, ça va être quoi le X, là? X, mettons, un X qui varie entre 5 et 50, là, mais dans X années, mais que l'auto se conduise 100% tout seul, ben, je vais avoir vécu une partie du trajet sur cette révolution-là.
Ouais, ouais,
parce que même qu'on soit rendu là, le monde du transport va recommencer un bouleversement comme qu'on ne l'a jamais connu. Puis on est tous pro-auto-électrique ici à Silence on roule, mais ce bouleversement-là, au niveau des habitudes de vie, va être des années-lumière en avant de ce que l'électrique a pu amener comme petit bouleversement.
Ouais, je suis
pas convaincu de ce que je dis là, mais c'est un peu mon impression, puis c'est le feeling avec ce que j'ai lu de Elon puis de ces choses-là, c'est que en ayant le bêta, puis en l'essayant, puis en l'utilisant, on apprend au système. Tu sais, quand est-ce que je reprends le volant puis que le FSD débarque, ben il est en train de rouler dans deux voies, comme je disais tantôt. Je le remets droit, je le réactive. Est-ce que ça fait un flag chez Tesla, puis à un moment donné, il y a un programmeur quelque part qui voit ça, puis fait comme... Oui, on a de la misère avec les lignes, les pas de lignes, ces rues. Là. Fait que, tu sais, je me dis que, tu dis ça, je dis à ma femme, c'est loin d'être parfait. mais chaque conduite que je fais, j'apprends au système.
Ça génère des données pour s'améliorer.
Exactement.
Et l'intelligence artificielle, c'est ça, hein, c'est d'apprendre, d'avoir des comportements nouveaux dans des situations en faisant de l'extrapolation par rapport à d'autres intrants. Puis l'intrant, c'est pas juste les caméras, c'est aussi la réaction du conducteur derrière le volant qui donne des informations qui doivent être discriminées. Écoutez, le temps presse, messieurs, on est déjà rendu à la fin. Mais ma dernière question, puis je veux la poser, puis c'est évidemment, là, le but n'est pas de flasher, le but c'est de donner l'information aux auditeurs. Cette belle bébelle-là, là, ça vaut combien? Là? Demain matin, je m'achète une Tesla, puis je me demande si je le prends ou si je le prends pas. Puis là, vous m'avez donné le goût de le prendre, je m'amène dans ma poche pour combien là, pour avoir ça? Fred?
Aujourd'hui, c'est, si je me rappelle bien, c'est 10 600 Canadiens. Aux États-Unis, quand le bêta est arrivé au début, en dedans de 2 semaines, 3 semaines, le prix a augmenté de 1 000-2 000 US. Il était, une fois de plus, sur Twitter, Elon a dit que probablement, ben, fort probablement, c'était pour monter d'ici quelques semaines, justement, aussi au Canada, suite à ça. Donc, ton ami Marc, qui a réservé, s'il a réservé avec cette option-là, puis il voulait vraiment, ben, il a fait un bon move, parce que les chances sont que le prix va augmenter. Mais, faut plus, je dis bien, mais aux États-Unis, tu as aussi la location. Tu peux le louer au mois. Mais, parce qu'il y a encore tout le temps des mais, quand il loue au mois, ben justement, ça n'en revient qu'à quand est-ce que tu rentres dans le programme. Fait que tu n'auras pas nécessairement été dans la fenêtre pour rentrer dans le programme. C'est peut-être juste le jour que ça va s'élargir que tu peux rentrer dedans.
C'est le point de vue location est bon, mais c'est pas grâce à toi que le système va arriver ou va tomber en place. Ça va être quelque chose de pratique peut-être pour du monde plus tard. Parce que vu que c'est bêta puis que t'es pas inscrit puis que t'es pas là tout de suite, ben ça pour moi c'est un peu de l'argent tiré dans les airs. Là. Mais quelqu'un qui est willing, quelqu'un qui est gadget, quelqu'un, peut-être ça décrit moi puis Fred justement, là, ben oui, il y a un montant à payer, mais quand tu fais wow, à ta conduite, puis que l'auto sort toute seule de ta cour, tu fais comme, OK, ça, c'est...
Fait que, et c'était ma dernière question. Ça le vaut, le 10 006, messieurs? Est-ce que ça le vaut?
Je reste à chaque personne de décider.
Il n'y a pas de bonne réponse, hein?
Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, non. Tu sais, tu regardes ce que tu as aujourd'hui, non, ça ne vaut pas 10 600.
Non,
la question, c'est combien tu penses... Mais non, excusez. C'est quoi les probabilités, selon toi, que ça arrive dans un délai acceptable? Parce qu'on s'entend le jour que l'auto se conduit virtuellement tout seul, puis que tu peux, je veux m'en aller à Toronto, plutôt comme prendre un vol de 3 heures, je m'en aller à Toronto, ben, je vais embarquer dans mon auto à minuit le soir, puis je vais me réveiller en arrivant là-bas à 6 heures le matin.
Je vais aller travailler, puis quand je vais avoir fini de travailler, je vais avoir mon chèque de paye, puis je vais avoir mon chèque de Tesla.
C'est ça.
Parce qu'il va avoir été se promener en taxi, puis il va avoir été porter du monde à leur travail ou porter du monde ailleurs ou quoi que ce soit. Puis, on peut mettre des sites, on peut voir loin, puis quand est-ce que ça va arriver, ça dépend peut-être le temps que je vais conserver ma voiture. Quelqu'un qui ça fait 3 Tesla qui achète dans les 4 dernières années, puis il a pris le FSD à chaque fois, ça, pour moi, c'est une dépense illogique. Il peut écrire à Elon ou à toute l'équipe Tesla, puis être pas content d'avoir payé un 10 000 $ à chaque achat. Parce que c'est pas transférable quand tu changes de Tesla. Mais la logique est que la fonctionnalité FSD suit la voiture. Effectivement, là, ça vaut pas le 10 000. Mais moi, quand j'ai choisi, j'ai évalué le montant que la voiture coûtait, les gadgets, le ci, le ça. J'ai laissé faire le 4 roues motrices, j'ai pris le FSD. Probablement que j'ai pas beaucoup de monde qui vont être d'accord avec cette option-là. Mais moi, ma perception d'un gadget électronique puis d'un jouet, j'aimais mieux le FSD.
Messieurs, ça a été un plaisir de vous entendre aujourd'hui. Les gens qui veulent en savoir un peu plus, ben, il y a différentes façons de se renseigner. Évidemment, Tesla peut donner une foule d'informations, mais sur les forums de l'AVEC, vous avez également des gens comme Marc, comme Fred et d'autres qui ont le FSD qui pourront vous donner de l'information. Les pages Facebook également des amateurs de Tesla, ça, c'est tout là. Donc, messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et puis, qui sait, on se croisera peut-être un jour sur la route puis vous pourrez remarquer que c'est moi qui s'en viens parce que votre voiture vous conduira puis vous aurez juste 100 heures à regarder par le châssis. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Fait plaisir. Bye.
vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la VEC.
Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca.
Arleco, servir au-delà de la réparation.
La chronique Tesla est une présentation de la boutique Réserve Bière et Saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique Réserve, 1001, rue Patrick Farrar, à Chambly.
How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work?
I don't really have a business plan.
Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
La réunion sur les rapports sur les bénéfices du premier trimestre 2022 a eu lieu. Tesla a annoncé lors de cette réunion qu'il était le plus grand assureur de Tesla au Texas. Et peut-être aussi d'ici la fin d'année le plus grand assureur, en fait, toutes marques confondues. Rappelons que le service assurance de Tesla est déjà disponible dans plusieurs États américains, dont l'Arizona, la Californie, le Colorado, l'Illinois, l'Ohio, l'Oregon, le Texas évidemment et la Virginie. Au cours de cette réunion, Elon Musk a beaucoup pris la parole et a répondu à pas mal de questions. Il a parlé de l'extension de la Giga Nevada en disant que la plus forte augmentation de production viendra de l'usine du Texas. Également par rapport au Cybertruck, il l'a comparé par rapport à un camion traditionnel par sa simplicité. Alors sa simplicité dans sa structure est significative par rapport à un camion traditionnel. Il a ajouté, je cite, « Nous avons probablement 20 à 30% de pièces en moins par rapport à un camion traditionnel ». Fin de citation. Concernant la pénurie de matières premières, il a précisé « Nous voulons absolument rendre les véhicules électriques aussi abordables que possible. Les fournisseurs sont soumis à de fortes pressions sur les coûts. Et dans certains cas, nous voyons des fournisseurs demander des augmentations de coûts de 20 à 30% pour des pièces par rapport à l'année dernière. Alors il y a beaucoup de pression sur les coûts. C'est pourquoi nous avons augmenté les prix. » Fin de citation. Et effectivement, Tesla a été assez proactif puisque comme les délais de livraison sont souvent de plusieurs mois, eh bien, entre le moment où vous commandez et le moment où vous allez être livré, les prix des fournisseurs peuvent avoir changé, ce qu'il faut anticiper pour éviter de vendre finalement à perte ou d'avoir une marge de profit insuffisante. Une question qui était sur toutes les lèvres, alors par rapport aux nouvelles cellules 4680, aux packs structurels, est-ce que l'usine du Texas va être capable de produire immédiatement ces nouveaux packs de batteries? Alors, à cette question, Elon Musk a répondu, je cite, « Pour atténuer les risques liés à la disponibilité des 4680, Tesla a également une capacité de production de packs non structurels 2170 à Giga Texas. Si les choses se passent comme prévu, nous allons atteindre une production en volume avec les 4680, probablement au cours du troisième trimestre 2022 ou pire, au quatrième trimestre. » Fin de citation. Également, une autre question concernant la montée en production dans les nouvelles usines, donc celle de Berlin et celle du Texas. Elon Musk a répondu qu'il devrait être en mesure d'augmenter la production beaucoup plus rapidement que ce qui avait été fait lors de l'ouverture de Giga Shanghai, parce qu'ils ont acquis une grande expertise dans cette production-là. Aussi, ajouter à ça que les moulages avant et arrière, donc la Giga Press, économisent 60% d'espace sur la ligne de production. Donc, ça devrait favoriser cette montée en fait en production assez rapide à Giga Texas et Giga Berlin. Et chose assez inusitée puisque nous parlons des pénuries de matières premières, Elon Musk a précisé qu'ils allaient recycler les roues en fonte d'aluminium des anciennes voitures à essence en refondant cet aluminium pour faire de la matière première pour le modèle Y. Précision concernant le Cybertruck, beaucoup l'attendent, et bien apparemment la montée en production de masse devrait se faire d'ici l'année prochaine, donc 2023, ce qui quand même constitue un retard de au moins un an par rapport à ce qui était prévu initialement. Comme vous le savez tous, l'enjeu essentiel dans les voitures électriques actuellement, c'est de pouvoir mettre la main sur un véhicule électrique neuf, puisque la production ne suit pas la demande. Et à cette question, Elon Musk a dit qu'ils étaient confiants de pouvoir continuer une croissance de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Avec donc l'année précédente, ils avaient presque atteint 1 million de véhicules produits. Donc 2022 devrait voir au moins 1,5 million de véhicules produits. Nouvelle que Reuters a sorti, donc Tesla construira une nouvelle usine à proximité de l'usine actuelle de Shanghai, ce qui ajoutera une capacité annuelle de 450 000 voitures, y compris des modèles 3 et des modèles Y, ce qui va devenir le plus grand centre d'exportation de véhicules au monde, selon Tesla et Elon Musk. Rappelons que dans son état actuel, l'usine de Shanghai produit quand même plus de 450 000 voitures déjà actuellement, donc ça va plus que doubler la capacité actuelle de l'usine de Shanghai, la portant à au moins 1 million de véhicules annuellement. Tesla s'est amusé à mesurer le nombre de réservations, le taux de réservation qu'ils ont par jour, et il se trouve qu'ils ont sorti le graphique après le Super Bowl, donc où il y a eu des annonces de véhicules électriques, et bien leur demande, leur taux de demande a plus que doublé. Et ce qui nous fait dire que non seulement Tesla ne dépense pas d'argent en publicité, mais il profite de la publicité des concurrents. Donc quand on voit une publicité pour un véhicule électrique, et bien on va chercher dans Google quels sont les véhicules électriques disponibles, et Tesla évidemment est en tête de liste. Le prix du lithium a atteint des sommets historiques depuis 2012, puisqu'il est aujourd'hui supérieur à 80 000 $ la tonne, alors qu'il était inférieur à 20 000 $ la tonne avant 2021, ce qui nous fait dire que Tesla, en fait, cherche beaucoup d'accords, de partenariats pour aller chercher ces matériaux qui sont en pénurie, comme le lithium ou le nickel. Aux États-Unis, Tesla a décidé de ne plus livrer le chargeur mobile avec les modèles 3 et modèles Y. Alors j'ai fait un sondage sur le compte Twitter de tout Tesla et vous avez été plus de 87% à dire que vous ne trouvez pas que c'était une bonne idée. Donc plus de 87% d'entre vous ont répondu qu'ils préféraient finalement que le chargeur mobile soit toujours vendu avec le véhicule. Elon Musk a précisé qu'il allait baisser le prix du chargeur mobile et qu'il serait accessible à partir de 200 dollars US. Au choix, on pouvait cocher cette option-là lorsqu'on commande le véhicule. Dans un autre registre, si vous aimez le théâtre, je vous invite à aller voir la pièce Pétrole de François Archambault. Il s'agit d'une autopsie d'un rendez-vous manqué avec la lutte au changement climatique. Depuis 1979, des données étaient disponibles, mais on a préféré les oublier. Et vous verrez, c'est assez saisissant, tous les modèles qu'on a actuels sur l'évolution du climat et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère avec les conséquences que ça a sur la modification de notre écosystème, eh bien tout était parfaitement documenté depuis les années 70. Et cette excellente pièce écrite par François Archambault en fait fait le récapitulatif de toute cette période-là. Alors c'est au théâtre Duceppe et il y aura des places disponibles, donc si ça vous tente de passer un bon moment avec toute cette équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez me suivre en direct, vous pouvez me rejoindre sur Twitter dans le compte Tout Tesla ou sur le groupe Facebook qui s'appelle également Tout Tesla. À bientôt.
Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi le kilométrage qui a été annoncé par le manufacturier n'est pas nécessairement le kilométrage qu'on va réussir à faire avec le véhicule. Eh bien, sachez que lorsqu'un véhicule est fabriqué et vendu, on va donner son estimation d'autonomie basée sur certains standards en fonction de où on se trouve dans le monde. Et ici, c'est le standard EPA pour Environmental Protection Agency. Et c'est justement cette agence qui va faire des tests sur les véhicules et estimer l'autonomie du véhicule. Évidemment, lorsqu'on vous dit qu'un véhicule donné a 320 km d'autonomie, par exemple, c'est dans des conditions bien précises, avec un mélange de routes, de grandes routes, sur terrain plat ou plus ou moins plat, évidemment. Donc, ça sera vrai uniquement dans les conditions dans lesquelles l'estimation de 320 km a été faite. Dans tous les autres cas de figure, ce qui sera probablement votre quotidien tous les jours, vous aurez parfois plus et parfois moins que ce qui a été estimé. Vous œuvrez dans l'entretien de parcs, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Pour tous ces événements, les détails ainsi que la façon de s'inscrire sont sur le site web de l'AVEC, dans la section calendrier que vous allez trouver au www.aveq.ca. L'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est ce samedi 7 mai à 9h. C'est un moment d'avoir une rétrospective des réalisations de l'année ainsi que l'élection des administrateurs pour la prochaine année. Salon du véhicule électrique de Québec, c'est du 13 au 15 mai au Centre des foires Expo-Cité à Québec. Ensuite, un kiosque virtuel, c'est un panel d'électromobilistes qui vont répondre à vos questions. C'est le mercredi 25 mai à 19h. Dimanche 29 mai, journée de la nature à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Venez rencontrer l'AVEC à l'église Sainte-Lucie-des-Laurentides, des essais routiers, conférence, introduction au véhicule électrique. Il y aura un autre kiosque virtuel avec jeudi le 9 juin à 19h avec un panel d'électromobilistes. Et samedi le 11 juin à Mirabel, ce sera le Salon de la mobilité. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Laurent Gigon, Claude Gauthier, Fred Saint-Laurent et Marc Godin. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, la boutique Réserve Bière et Saveur, Boco Eco, Cubex Équipement, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions qui touchent le balado sont adressées à martin@silenceonroule.com et l'information générale sur les voitures électriques à www.aveq.ca l'AVEC. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archivesaupluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.